Aristote définit l'imagination, à savoir le fait d'imaginer, et non la dunamis comme telle, selon qu'elle est un mouvement produit par la sensation en acte. Oui, c'est cette fameuse chose qu'Aristote donne, ce qui est toujours très intéressant. Comment comprendre cela, puisque le fait d'imaginer ne va pas de pair avec celui de sentir. De plus, dans son De Anima, Aristote ne fait aucune allusion à la mémoire, je sais, qui, d'une certaine façon, semble présumée et inclue dans l'imagination, et inclue, oui, dans l'imagination. Cela s'entend de la mémoire et des images. Bon, alors, je dis d'abord, je ne fais pas un cours sur Aristote. Vous comprenez bien. Bien évident, je fais allusion à Aristote. C'est bien évident que je m'inspire d'Aristote, étant donné que De Anima d'Aristote est un des plus beaux livres d'Aristote. Ça, c'est un des livres qu'on doit avoir lu et relu, puis vous avez les textes qu'on vous donne. Donc, c'est très important. Vous savez bien, dans Aristote, il y a l'éthique, il faut commencer par l'éthique. Puis le De Anima, puis la métaphysique. On peut aussi, si on s'intéresse, apprendre après l'éthique la politique. Mais je crois qu'il faut prendre toujours cet ordre-là. L'éthique, tout le monde doit avoir lu l'éthique d'Aristote. Je ne dis pas en grec, parce que ça ferait la grâce du Saint-Esprit, quelquefois, mais au moins avec une traduction. Alors l'éthique et la politique, pas nécessairement, ça dépend, le De Anima et la métaphysique. Ça, je crois que c'est indispensable à l'envers du sort, dans sa vie. L'école Saint-Jean implique ça. Vous voyez ? Bon, alors ça, c'est très important de saisir ces aspects-là. Vérifier, ça, c'est pas moi. Je vous laisse le soin de vérifier ça. C'est une question de présence, là. Bon, dans saint Thomas, vous lisez évidemment la somme. C'est sûr. Il faut avoir lu la somme en entier. Au cours de ses études philosophiques et théologiques. Alors la somme, ça dépend comment on peut la commencer. Ça dépend. Je dis ça, c'est parce que ça donne des petits renseignements pratiques pour ceux qui ne savent pas exactement comment faire. Et dans saint Thomas, c'est la somme et le contrat gentilès. Il faut avoir lu le contrat gentilès. Parce que le contrat gentilès est une charnière. Alors, quelquefois, c'est bon de lire les deux en parallèle, ça nous aide. Il faut avoir lu le commentaire de saint Thomas sur saint Jean. Il faudrait lire le commentaire de la métaphysique. Ça, c'est sûr, mais comme c'est pas traduit, ça fait des empêchements pour certains. Alors, il faudra essayer de voir, avoir peut-être une traduction ad intra, et puis peut-être alors voir certains aspects des questions disputées, qui sont sûrement des choses importantes à avoir lues. Ça, c'est les livres de base, hein. Vous ne perdez pas votre temps à voir ça. Alors, certains doivent lire saint Thomas avant, d'autres lire Aristote avant, ça dépend de chacun. Oui. Il n'y a pas qu'une seule méthode sur laquelle tous on doit passer. Et c'est une méthode différente. Et puis d'une façon générale, n'oubliez jamais qu'il faut avoir au moins deux registres d'études. Un premier registre, quand on a la tête fraîche. Alors on fait de l'Aristote et du saint Thomas. Et puis quand on a la tête moins fraîche, alors, à ce moment-là, on peut lire des choses qui sont plus faciles. Alors, on doit avoir des choses qui sont plus faciles. Maritain. C'est pas mauvais d'avoir lu Maritain. Parce qu'on vous en parlera. Alors, il faut l'avoir lu. Je dis pas que ça forme, mais il faut au moins l'avoir lu. Il faut avoir lu certaines choses de Maritain. Dans Maritain, les degrés du savoir, je crois, avant tout. Les sept leçons sur l'être et l'éthique, c'est pas mauvais comme sept contrats, vous voyez, pour mieux comprendre certaines positions philosophiques. Au point de vue critique, le cours du père de Contédec, au point de vue connaissance, ça c'est bon. Et puis, certains livres thomistes, Gilson, la philosophie du Moyen-Âge, c'est quand même bon d'avoir lu. Même s'il y a des points de vue sur lesquels on peut discuter, c'est quand même une toile de fond qui est bonne, au point de vue connaissance de l'histoire. Vous voyez, il faut connaître ces choses-là, il faut les avoir lues. Ça, je crois. Alors, vous voyez, on ne vous le dit pas à tel moment, c'est vous-même qui devez prendre un peu d'initiative pour avoir un peu un travail personnel. Il faut avoir vite un travail personnel, très vite. Vous voyez, parce que les cours, c'est très bien. Mais les cours aident surtout quand on a un peu un travail personnel. Alors le travail personnel, vous voyez, c'est les deux registres. Alors on peut avoir un troisième registre, qui est de lire, par exemple, les tragiques grecs. Vous ne perdez pas votre temps en lisant les tragiques grecs. Ça, c'est bien évident. Ça fait partie de toute une culture. Vous ne perdez... À propos, j'ai dit Maritain, les livres du Père Festugère sur Platon, c'est des livres à avoir lus, ça. Les livres de... En fond, certains livres sur Saint-Augustin. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut avoir lues. Et lire du Saint-Augustin, c'est certains aspects de Saint-Augustin qui font partie d'une culture nécessaire au point de vue philosophique et théologique. Oui. Alors, il faut se faire sa petite... On pourrait demander aux aînés, ceux qui parrainent, de faire une liste en trois registres, trois étages. Premier, quand on a la tête bonne. Alors, il y a des gens qui ont toujours la tête farcie. Alors, évidemment, c'est difficile pour cela. Mais, alors, ils doivent faire des efforts, pour de temps en temps. Mais autant que possible, quand on a la tête fraîche, on lit ces choses qui sont un petit peu plus difficiles. Quand on est un peu plus fatigué, on prend le second. Et quand on est fatigué, on a un troisième. C'est très important d'avoir toujours un chantier. Vous voyez, qui nous talonne. Parce qu'on perd beaucoup moins de temps quand on a un chantier. Chacun, on a un peu son travail personnel. Parce que quand on n'a pas ce travail personnel, on risque de dire, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, il fait beau, on se promène. On est, alors c'est très difficile à ce moment-là. Tandis que si vous avez un risque, vous vous habituez à avoir des mœurs intellectuelles. Il faut avoir des mœurs intellectuelles. Avoir des mœurs intellectuelles qui ne sont pas notre manière de vivre. Nous avons des mœurs religieuses, chrétiennes, contemplatives. Nous devons avoir une vie contemplative. Mais dans la vie contemplative, il doit y avoir ces différents chantiers. Et ça, c'est très important. Et alors, dans ces différents chantiers, vous voyez, les livres qui sont parallèles qu'on peut lire et qu'on doit s'habituer un tout petit peu assez vite de résumer. Je crois qu'il faut assez vite écrire soi-même des petits résumés qu'on soumet à son parrain, qu'on soumet au père Marie-Alain, qu'on soumet à son professeur. Vous voyez, c'est bon. Parce que si on n'écrit jamais rien, alors on n'écrit plus. Et le jour où on doit faire un petit travail, on ne sait plus le faire. Alors c'est bon d'essayer d'habituer cela. Alors un travail, je ne dis pas tout le temps nécessairement, mais je crois que tous les 3 mois, par exemple durant les 3 mois, écrire quelque chose qui nous a saisi, ou à propos d'un livre moderne qu'on doit lire et qu'on recommande de lire, un livre de philosophie. N'est-ce pas, Dieu sans l'être, par exemple, lire un petit peu de Heidegger de temps en temps, c'est pas mauvais, lire un peu de Hegel, c'est pas mauvais. Il faut s'habituer, pour ceux qui veulent vraiment entrer en philosophie, de lire un philosophe tous les ans. Oui. Descartes, c'est Spinoza. C'est un philosophe tous les ans. Il y a une culture philosophique qui est nécessaire, vous voyez. Comme celui qui fera de la littérature s'habituera forcément, il devra le faire. Et alors il faut, au point de vue philosophique quand même, Il y a une culture. C'est pour l'Église que nous faisons ça. C'est pour ceux que nous rencontrerons. Alors évidemment, il ne faut pas l'avoir tous la même. Hein. Vous comprenez bien, c'est bien évident. Laissez aux grosses têtes le soin de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis vous, lisez moins, parce qu'il y a à lire moins, mais on prend des choses importantes. Et c'est pour ça que je crois qu'au début de ces études, vous voyez, il y a un petit examen de conscience qu'on fait pendant le carême. Hein. Alors, on essaie de comprendre si on a lu suffisamment ces choses-là. Et pendant les années, 6 ans d'études, pratiquement vous aurez tous 6 ans d'études. À part perdant quelques-uns qui n'auront pas 6 ans, d'autres auront peut-être plus, mais au fond, n'auront tous 6 ans. Il se dit, il y a des livres qu'il faut avoir lus. Et il ne faut pas réserver ça pour la fin. Oui, il y a des livres qu'il faut avoir lus. Il faut avoir lu, je vous dis, au point de vue Aristote, je vous ai nommé tout à l'heure, au point de vue saint Thomas, il faut les lire la somme théologique et la somme contre les gentils. Il faut avoir au moins lu ça. Parce que ça nous familiarise un peu avec saint Thomas. Et ça, c'est beau. Avoir lu du Gilson, avoir lu du Maritain, avoir lu des choses qui nous aident. Mais, alors vous pouvez lire aussi, pour ceux que ça intéresse, les livres sur l'être et la méditation. Ça, c'est fait pour vous. Non ? Si je les ai écrits, c'est parce que les étudiants me l'ont demandé. Alors c'est pour vous. Non ? Et puis lire l'être à un ami au début. Première année, on lit l'être à un ami. Vous voyez ? Ça, c'est le second registre. Quand on ne peut pas lire Aristote, on lit l'être à un ami. Vous voyez ? Alors c'est plus facile, c'est plus facile que d'Aristote. Vous voyez ? Alors on lit ça pour mieux comprendre. Il faut se faire à soi-même un tout petit peu ces différents registres. Je parle au point de vue philosophique, je ne parle pas au point de vue religieux. Qu'au point de vue religieux, on ait d'autres registres, et quand on est fatigué, on peut lire la spiritualité. Même quand on est fatigué, ça repose. La vie des saints, on peut la lire quand on est fatigué. Et c'est pas du tout, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est moins important. C'est tout simplement pour qu'on utilise pleinement et totalement nos capacités. Et ça, c'est très important. Alors, il est évident que pendant le temps de la formation, on doit aller aux choses difficiles. Il faut avoir un tout petit peu de sens, de l'irascible. Et l'irascible aime le bien difficile. Et on s'attaque aux choses difficiles. Si vous ne vous attaquez pas aux choses difficiles maintenant, vous ne les verrez jamais. C'est bien évident. Une fois que vous aurez commencé votre vie apostolique, vous ne verrez plus d'Aristote. À part des cas très exceptionnels. Ceux qui resteront aux études et qui continueront aux études, alors là, c'est très bien, ils continueront. Mais autrement, ils ne le verront plus. Alors, très bien, moi je ne dis pas du tout, on peut entrer au ciel sans avoir lu d'Aristote. Hein. Saint-Pierre ne vous demandera pas comme exigence, as-tu lu ? Mais il demandera, est-ce que votre devoir d'État a été accompli ? Alors ça fait partie de notre devoir d'État. Alors évidemment, ce n'est pas nécessairement la première année. Mais ça doit être au moins la seconde année en philosophie. Et la troisième année. Après, on est pris par la théologie, vous savez, ça va vite. Alors, en théologie, avoir peut-être un petit livre qui donne une petite synthèse. Parce que c'est bon d'avoir une petite synthèse, un catéchisme un peu plus élevé. Le catéchisme de 30, s'il y a des choses qu'on oublie, c'est bon de le lire de temps en temps. Vous voyez, Ratzinger nous a rappelé, le cardinal Ratzinger nous a rappelé que c'était bon d'avoir un catéchisme. Pour soi, parce qu'on a tous besoin d'avoir un catéchisme, tu vois. Si vous faisiez passer un examen avec le catéchisme de 30, vous seriez peut-être en train de dire « On n'a jamais dit ça, ce serait le refuge peccatorum, ça. » N'est-ce pas ? Alors, vous voyez, on accuse le serpent comme Ève, n'est-ce pas ? On n'a jamais dit ça, oui, mais vous êtes suffisamment apte pour vous former vous-même, vous voyez, à ce que représente une culture. C'est comme les conciles. Il faut avoir lu autant que possible, en théologie ça, alors c'est pas pour vous maintenant, mais c'est pour la théologie. Bon, alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'imagination, un mouton très particulier. Alors, c'est évident qu'Aristote ne parle jamais d'adunamis quand il s'agit de l'imagination. Et c'est très curieux la manière dont Aristote traite l'imaginaire, très très curieux. J'avais hésité de le prendre, parce que c'est un des très très beaux traités de l'imaginaire. Très très beau traité, ça il faut. Aristote, Kant. Sartre, trois grands traités de l'imaginaire, qui ne sont pas au même niveau de valeur. Hein. Mais ce qui est plus intéressant dans Kant, c'est son esthétique transcendantale. C'est ce qui est plus intelligent. Et c'est ça que Heidegger a retenu et a pris. Et alors, l'imaginaire de Sartre n'est pas du tout à dédaigner. C'est une des choses les plus intelligentes de Sartre. C'est intéressant de voir ça. Et puis alors, soi-même, avoir un chantier, ça, je crois qu'on peut tous avoir un chantier sur l'imagination. Je ne dis pas d'écrire tous les jours vos rêves. Parce que les rêves, c'est le domaine de l'imaginaire à l'état pur. Hein. Alors, ça peut être quelquefois intéressant d'écrire vos rêves. Hein. Si vous avez 10 minutes et vous avez eu un rêve extraordinaire et que vous êtes encore sous le coup de ce rêve merveilleux, il faut trouver la seconde maison pour Rimond tout près d'ici et dans le diocèse. C'est peut-être pas mauvais de mettre le jour, la date du saint et se demander si c'est quelque chose qui vient de Dieu ou pas de Dieu. Vous voyez, c'est pas mauvais du tout. Alors on peut de temps en temps, si on a eu un cauchemar effrayant, c'est pas mauvais. Il faut pas passer son temps à faire ça. Que ça, c'est un petit peu trop. Mais c'est l'imaginaire, je crois, est un domaine que nous devons tous travailler pour nous purifier. Que nous avons tous, ça nous sommes, que voulez-vous, nous sommes des enfants du XXe siècle. Hein. Et le XXe siècle a une culture d'imaginaire, des excroissances extraordinaires d'imaginaire. Parce que le cinéma cultive énormément l'imaginaire. C'est un art qui cultive l'imaginaire de façon étonnante. C'est un art de l'imaginaire, le cinéma. Je me souviens de la réaction d'un petit gosse. On avait dit, il avait 7 ans. La première fois que son père le conduit au cinéma, c'était le fameux film, à ce moment-là, on a beaucoup parlé, de Jeanne d'Arc. Et alors, très très vite, au bout de 10 minutes, le gosse dit à son père, non, partons, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Je veux pas. Le père était obligé de partir. Le gosse ne voulait pas. C'est extraordinaire, cette réaction. Elle est saine. Je crois qu'elle est saine. Elle est bonne. C'est un gosse qui avait un sens très très fort du réalisme. Alors, présenter Jeanne d'Arc, ça, non, pas du tout. Ne voulait pas. L'imaginaire. C'est évidemment, c'est rare, ça, dans notre monde d'aujourd'hui. Mais c'est intéressant, c'est des témoignages hein, de gosses, ils nous disent quelquefois des choses très étonnantes. Hein. Alors, le cinéma favorise l'imaginaire. La télévision aussi favorise l'imaginaire. Les propagandes. On vit dans un monde de propagande. Ça favorise l'imaginaire et le mensonge. Je me souviens de mes anciens élèves de Fribourg, qui était un grand Écossais. Un Écossais merveilleux, quand il est revenu au bout de quelques années, il était à la tête d'une grande entreprise anglaise. Il m'a dit, c'est terrible, je mens toute la journée. Et je suis là à mentir tout le temps. Alors, c'est d'autant plus pénible pour moi que j'ai fait des études de philosophie et un amour de la recherche de la vérité. Et je me demande si je dois rester dans le métier que je fais. C'est vrai que les propagandes augmentent l'imaginaire. Vous voyez, c'est pas. Alors, il faut comprendre. Aristote, de fait, regarde l'imaginaire, la fantasia, face à ses prédécesseurs, pour essayer de comprendre que la fantasia, c'est l'intermédiaire entre le point de vue de la sensation et le point de vue du nous. C'est ça le propre de l'aspect d'Aristote. La fantasia est de l'ordre de la médiation. Et c'est pour ça qu'il souligne un mouvement produit par la sensation en acte. C'est-à-dire, l'imaginaire ne nous met pas en contact direct avec le réel. L'imaginaire ne peut exister qu'à partir des sensations. C'est à partir des sensations que l'imaginaire joue. Et l'imaginaire nous conduit vers quelque chose qui sera repris par l'intelligence. Vous voyez, ça c'est la grande vision d'Aristote. C'est de comprendre que l'imaginaire, lié aux sensations, Les sensations, c'est nous mettre directement en contact avec l'univers physique. Notre univers physique, nous le touchons, nous le voyons, nous le palpons, nous le mangeons. C'est ça notre univers physique. Nous, vous voyez, nous avons vis-à-vis de lui ce contact très sensible, très direct. C'est le milieu dans lequel on est. Tandis que l'imaginaire commence à partir des sensations. Et c'est cette définition très très belle. Je voulais la reprendre l'autre jour. Un mouvement produit par les sensations en acte. La sensation en acte, donc la sensation en acte, va être le point de départ de ce que représente l'imaginaire, la fantasia. Tout ce domaine de l'imaginaire. Et l'imaginaire va être quelque chose qui va permettre la montée verticale. Qui sera le nous. Ça, nous le verrons. Nous reverrons comment l'imaginaire est par rapport au nous, la matière par rapport à la forme. Ça montre très très bien qu'il y a un passage très important à comprendre que le nous en acte va transformer l'imaginaire pour le faire passer. De ce domaine sensible, on reste dans le sensible. On reste dans le sensible, dans l'imaginaire. Mais on n'est pas en contact direct. Et c'est pour ça que nous avons cette définition selon qu'elle est un mouvement produit par la sensation en acte. Donc vous avez dans le... puisque la référence est donnée, troisième livre du DMMA, chapitre 3, 429 A et 2. Alors, comment comprendre cela puisque le fait d'imaginer ne va pas de pair avec celui de sentir. Il ne va pas de pair avec celui de sentir, mais il est ensuite. Il n'y a pas d'imaginaire sans la sensation. La sensation est nécessaire, elle est ce qui actue l'imaginaire. C'est ça qui est très très curieux. Quel est l'objet propre de l'imaginaire ? Si vous faites une analyse, comme toujours la connaissance, il faut chercher son objet propre. Et là, vous voyez qu'on définit l'imaginaire par le point de vue du mouvement. Ça aussi, c'est très génial, ça. On définit l'imaginaire par le point de vue du mouvement. C'est un mouvement dans l'ordre de la connaissance. C'est pour ça que c'est le pantarel de l'imaginaire. Hein. C'est ce qui coule tout le temps, ce qui passe tout le temps, l'imaginaire. Et c'est vrai, l'imaginaire, ça passe tout le temps. Et alors, on montre ce point de vue, et c'est très curieux, parce que dire le mouvement, comme c'est un mouvement vital, sinon que c'est me verrez. Or, quand vous définissez la sensation, vous ne définissez pas la sensation par le c'est me verrez. Vous définissez au contraire la sensation par le pascal, le fait de recevoir. Qu'est-ce qui est premier dans la sensation? C'est recevoir. Je suis dans une attitude de réceptivité à l'égard des qualités qui viennent de me déterminer. Je reçois. Mon œil est capable de voir, capable de recevoir des sensibles propres. Mon ouïe est capable d'entendre. Donc, qu'est-ce qui caractérise la sensation? C'est le pascal, l'attitude de passivité, l'attitude de réceptivité. Qu'est-ce qui caractérise l'imaginaire? C'est pas du tout la passivité, c'est le sémoverer. C'est un mouvement. C'est très très curieux, c'est un mouvement. Vous voyez donc, si c'est un mouvement, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, parce que ça c'est très très important. Si c'est un mouvement, c'est modéré, c'est le point de vue de la cause efficiente qui est première. Ce n'est plus la cause formelle. Dans la sensation, qu'est-ce qui est première? C'est la forme. C'est le dos, comme dira Aristote. C'est les sensibles propres qui viennent déterminer la sensation. Donc c'est la cause formelle, ce qui est normal. Dans toute connaissance, c'est toujours l'objet qui est premier. C'est l'objet qui détermine. C'est bien évident, on verra ça pour la connaissance. C'est l'objet qui détermine. Et l'objet ici, les sensibles propres. Et c'est pour ça que c'est tout de suite les sensibles propres qui sont montrés. Tandis que lorsqu'il s'agit d'imagination, Aristote ne dit pas l'objet propre. C'est très curieux. Il dit « mouvement produit par la sensation en acte ». Comme si nous avions avec l'imagination un domaine de connaissance qui n'est pas premièrement objectif, l'imaginaire, il se fiche pas mal de l'objectivité. Donc, c'est extraordinaire. Il l'invente. Il se la donne. L'imaginaire, c'est une connaissance subjective. En premier lieu. C'est pas une connaissance objective en premier lieu. C'est une connaissance subjective. C'est une connaissance de synthèse qui provient du sujet. Je fais des synthèses. Oh, je prends des morceaux à droite ou à gauche. Hein. L'imaginaire, très accaparant, l'imaginaire, ça prend, c'est extraordinaire. Mais ça fait sa propre synthèse. Et la propre synthèse est donnée dans le mouvement. Oui, c'est en ce sens-là qu'il y a un parallélisme entre l'imaginaire et le point de vue de la dialectique. La dialectique, ce n'est pas une connaissance objective, en premier lieu. C'est une connaissance d'un mouvement, et dans un mouvement. Eh bien, l'imaginaire, c'est une connaissance dans un mouvement. C'est pour ça que c'est si fort, un mouvement produit par la sensation en acte. Je ne dirais jamais ça de la sensation. Alors, la sensation en acte, parce que justement, c'est second, ce n'est pas la réalité qui détermine l'imaginaire, c'est la sensation en acte qui lui apporte son bien. Et c'est vrai, l'imaginaire est nourri par la sensation en acte. Mais l'imaginaire est un mouvement qui fait des synthèses. C'est une connaissance de synthèse, c'est la première connaissance de synthèse. Et l'objectivité de cette connaissance, il y a une objectivité. Quelle est l'objectivité de l'imaginaire? Il y a une connaissance qui est une connaissance imaginative. Donc, si j'analyse, je dis en premier lieu, c'est un mouvement. Ça, c'est renversant. Il fallait le trouver. Il fallait dire ça. C'est quand même quelque chose de dire ça. Il fallait dire que l'imaginaire, en premier lieu, c'est un mouvement. Et je comprends l'opposition, parce qu'il y a une espèce de connaissance entre les deux, la sensation et l'imaginaire. On montre que c'est un mouvement, tandis que la sensation, c'est une réceptivité. Alors, il faut déjà uniquement ça, ça nous met le pascal, on pâtit. Quand on sent, on pâtit. Quand on imagine, on ne pâtit pas. On est actif. Et on est terriblement actif. On est tellement actif qu'au bout d'un certain temps, même les sensations sont complètement prises. Et on arrive à des hallucinations. Et les hallucinations, c'est quand l'imaginaire arrive à capter même les sensations. Capter l'intelligence, c'est beaucoup très vite. L'intelligence a beaucoup moins de résistance vis-à-vis d'un imaginaire. Les sensations, un peu plus. Mais l'imaginaire arrive même à capter les sensations. C'est extraordinaire, par ça. Si l'imagination n'était pas un mouvement, on ne pourrait pas faire ça. Un mouvement interne, mais oui, il demande quatre preuves. Le mouvement, d'une certaine manière, hein, il est comme infini. Il n'y a pas de limite. Une sensation, elle est limitée. Elle est limitée, la sensation. Vous voyez quelque chose. Vous voyez l'écarlate de la fleur, de la rose. Vous voyez ça. Vous voyez le blanc de la neige. Vous le voyez. Ce n'est pas infini, c'est déterminé. Tandis que l'imaginaire n'est pas premièrement déterminé. Il implique une détermination, nous allons arriver. Mais il n'est pas premièrement déterminé. Ce qui caractérise l'imaginaire, ce n'est pas premièrement son objet. Ce qui caractérise l'imaginaire en premier lieu, c'est qu'il est un mouvement. Un mouvement dans la connaissance. Et dans la connaissance sensible. Un mouvement qui par le fait même, fait que la synthèse est plus importante que les éléments. La synthèse qui est faite à l'intérieur de ce mouvement. C'est le tourbillon dans le lac. Dans un lac, c'est un lac imaginaire, c'est toujours un lac intérieur, c'est pas la mer. La mer, c'est la réalité que je touche, c'est le monde où c'est l'intelligence qui touche une réalité supérieure. Vous voyez, tandis que l'imaginaire, c'est un lac. C'est la spiritualité des lacs. C'est particulier, tu vois, la spiritualité des lacs. C'est quelque chose qui est en mouvement, un tourbillon, et c'est pour ça que c'est l'agitation. L'imaginaire aime, l'imagination aime l'agitation. Et si on ne fait pas grande attention,
la turbine. Et il faut que ça vibre très bien. Et je vous dis, c'est tellement fort que ça peut capter la sensation, que ça peut capter le nous. Et l'imaginaire prend tout. Et une fois que ça prend tout, ça peut aller encore plus loin. Ça fait comprendre, vous savez, beaucoup de choses hein, dans notre psychisme, ça. Ce que ça représente l'imaginaire. C'est pour ça qu'on a dit que l'imaginaire, c'est la folle du logis. Parce qu'elle tourbillonne tout le temps, l'imagination. Tout le temps. Pas de limite. Et elle veut être le centre. Il y a un égocentrisme effrayant de l'imaginaire. Dans les autres connaissances, l'objet est premier. Donc il n'y a pas d'égocentrisme. Tandis qu'au contraire, l'imaginaire est égocentrique. Parce que justement, c'est ce mouvement, ce s'émovérer pour lui-même. Alors, il y a une espèce de séduction très grande. C'est curieux, hein, c'est très curieux. Les autres connaissances, l'objet est premier, donc il n'y a pas d'égocentrisme. Tandis qu'au contraire, l'imaginaire est égocentrique. Parce que justement, c'est ce mouvement, ce s'émovérer pour lui-même. Alors il y a une espèce de séduction très grande. C'est curieux, hein, c'est très curieux, je ne l'ai pas inventé l'imagination. Vous non plus, hein. Nous constatons que c'est ça. C'est pas négatif, hein. C'est quelque chose de positif et de très important dans notre vie. Mais j'essaie de comprendre ce qui caractérise cette connaissance. Et je vois que cette connaissance a quelque chose de tout à fait différent de la sensation. C'est tout autre que la sensation. Notre domaine, c'est quelque chose... C'est le mouvement. C'est le mouvement. Un mouvement produit par la sensation en acte. Bon. Alors, vous voyez donc... que c'est premièrement ça, c'est le mouvement, c'est la cause efficiente, mais un mouvement de connaissance, hein, comprenez bien, un mouvement dont j'ai conscience d'imaginer, j'ai conscience, un rêve, je vous dis, c'est dans les rêves que vous comprenez mieux ce que c'est l'imaginaire, dans les rêves vous comprenez parfaitement ce que c'est l'imaginaire, normalement quand vous êtes éveillé, sauf quand vous êtes distrait, vous vous laissez aller, alors, à ce moment-là, mais où est-ce que tu es? Ben, je suis dans mon rêve. Un rêve éveillé, non? Alors là, vous voyez bien, ça part. Je dis, c'est planeur. C'est très souple. Ça n'a pas de direction. L'imaginaire en lui-même n'a pas de direction. Il part dans tous les sens. C'est très curieux. C'est très, très curieux à saisir ça. Il faut le saisir. Hein? Donc, c'est pas un mouvement. Un mouvement dans la connaissance. Un devenir dans la connaissance. Un devenir dans la connaissance qui implique donc que c'est le sujet connaissant qui prime. C'est pas l'objet. Cependant, c'est une connaissance, donc il doit y avoir un contenu. Le contenu, c'est l'image. L'image, c'est le fruit de l'imagination. Cette image, elle est dans un flux constant. C'est un flux constant. Parce que c'est le fruit d'un mouvement. Alors, vous voyez, c'est très curieux l'image, hein, c'est pas du tout comme le concept. Le concept est déterminé, il a sa signification. L'image n'a pas de signification. C'est un flux. Alors il peut passer d'un autre à l'autre, je passe, c'est merveilleux. C'est comme les flux du pamphlet, alors un peu de soleil dedans, miroiter des tas de choses. Il y a un contenu cependant, alors le contenu de l'image, c'est ce que j'avais essayé de vous dire la dernière fois, c'est que le sensible commun passe avant les sensibles propres. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce que ça montre bien que grâce au sensible commun, l'image est dans le mouvement. C'est le mouvement, c'est le mouvement et les conditions du mouvement. Et ça, c'est les sensibles communs. Tout ce qui conditionne d'habitude les sensibles propres devient ce qui détermine l'imaginaire. L'imaginaire est déterminé par le conditionnement des sens. C'est le conditionnement des sens qui est le contenu de l'imaginaire, qui est la détermination de l'imaginaire. Et donc je vois très bien cette parenté avec le point de vue du mouvement, avec le devenir, le changement constant. Et la synthèse va partir du sujet. C'est le sujet qui réalise à sa tête. Je réalise moi-même, dans le domaine de l'imaginaire, je réalise moi-même mes propres intentions. Donc, voilà, je rappelle, vous voyez ce que représente ça. Alors, il est bien évident qu'à partir de là, je dis qu'il y a une faculté, il y a une donalie, il y a une faculté propre, une faculté qui commande ce domaine-là. Et cette faculté, c'est la fantasia. Et la fantasia, c'est l'imagination. Et l'imagination, elle est une faculté propre en moi, une faculté parce qu'il y a un type de connaissance particulier. C'est donc à partir de l'image et à partir de l'imagination que je pose, je n'ai qu'à faire l'analyse, que je pose la fantasia comme cause efficiente, comme causalité efficiente, comme source, comme origine de l'imaginaire. Le contenu, je vous l'ai dit, les sensibles communs qui passent avant les sensibles propres. Donc l'imaginaire inverse tout le domaine du sensible. Là, c'est très curieux. Ça inverse tout le domaine du sensible. C'est pour ça que quand je reste uniquement dans l'imaginaire, je ne rejoins jamais plus le réel. Et c'est vrai que quelqu'un qui est dans l'imaginaire ne rejoint pas le réel. Ce qui explique la facilité de l'hallucination. Parce qu'autrement, si on joignait le réel, il n'y aurait pas d'hallucination. Il n'y a jamais d'hallucination au niveau des sens. Pas possible. Il y a l'hallucination à cause de l'imaginaire, où je deviens incapable de sentir. Je suis halluciné, j'ai senti des choses, c'était rien du tout. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est bien que c'est toujours une très grosse difficulté de savoir, est-ce que, point de vue chrétien, est-ce que c'est imaginaire ou est-ce que ça vient de l'Esprit Saint? C'est pas comme un but. Et c'est pour ça qu'on regarde les fruits. Parce que si c'est l'Esprit Saint, c'est quelque chose de réel. Donc il y aura des fruits. Si c'est purement imaginaire, il n'y aura pas de fruits. Ce sera la crème fouettée. Et qu'on doit fouetter toujours plus pour qu'elle se maintienne. Autrement, elle redégringole. Alors on doit la fouetter, mais il n'y a pas de fruits. Le fruit est l'imaginaire. C'est la promesse, promesse indéfinie. Demain, 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 demain. C'est tout. Mais jamais la réalité. Et vous la voyez jamais apparaître. Et c'est pour ça que là, il y a un critère. Il y a un critère de vérité, de discernement entre l'imaginaire et le point de vue divin, selon les résultats. S'il n'y a pas ces résultats-là, je ne peux pas savoir. L'imaginaire peut inventer des tas de choses. Pas inventer des tas de choses. Si on est un peu poète, on peut avec l'imaginaire donner des choses merveilleuse, que personne n'a vécu, même pas celui qui le dit. Personne ne les a vécu. C'est imaginaire. C'est un domaine merveilleux, c'est très séduisant, mais ça, le seul inconvénient, que ça n'a pas de fondement, si ce n'est dans l'imaginaire. Alors ça peut être poétique, ça peut avoir une valeur poétique, très bien, une valeur symbolique, mais ça n'a pas de valeur de réalité. Alors, je continue pour répondre. Comment comprendre cela, puisque le fait d'imaginer ne va pas de pair avec celui de sentir? Il y a une rupture entre les deux, c'est bien évident, mais la sensation est le milieu dans lequel se développe l'imaginaire. Alors, voyez, quand il dit sensation en acte, c'est pour bien montrer qu'il n'y a pas de contact direct avec le réel, qu'il n'y a pas d'objet propre de l'imaginaire. C'est ça qui est très curieux. Une connaissance sans objet propre. Le seul objet propre que je pourrais dire, c'est les sensibles communs. Et qui, par le fait même qu'ils sont des sensibles communs, ne sont pas propres. Et alors, c'est les cinq sens qui alimentent l'imaginaire. Et c'est pour ça que j'aurai des images. On aura chacun d'entre nous, nous avons des modalités de l'imagination différentes. C'est ça que c'est pas objectif. Il y a des imaginations provenant avant tout de la vision. Ce sont des visionnaires. Il y a des gens qui sont visionnaires. Il y a des gens qui ont un ouïe extrêmement développé et donc leur imaginaire sera dans le sens de l'ouïe, dans le sens du son. Ils entendront. Ils entendront des voix. Alors est-ce que ces voix, c'est de l'imaginaire ou est-ce que c'est la réalité? Comme Jeanne d'Arc,
admirable pour ça. Ces voix. Est-ce que c'est le fruit de l'hallucination? Est-ce que c'est le fruit de la réalité? Pour Jeanne d'Arc, nous savons. Mais de son vivant, ça ne va pas être si commode. Hein. Je comprends qu'on lui joue des tours hein, pour être sûr que ses voix, c'est réel ou pas. Quand elle vient voir le roi, de cacher le roi, et puis qu'elle arrive, elle le distinguer tout de suite au milieu de tous les autres. Alors qu'il n'avait peut-être pas l'apparence. C'est donc, ça prouvait qu'il y avait là quelque chose d'autre qui n'était pas uniquement l'imaginaire. Il peut y avoir une imagination tactile. C'est la moins développée, évidemment. Mais ça existe. Parce que les hallucinations tactiles, vous savez bien, sont les hallucinations les plus terribles. Quand vous commencez à avoir des hallucinations tactiles, ça prouve que ça ne va vraiment pas très bien. C'est... Oui, parce que vous marchez sur du velours. Bon. Il y a des rapages facilement, tu vois. C'est tactile. Hein. Les imaginations du côté du goût des hommes d'Égypte. Le sevrage augmente l'imaginaire du côté du goût. Immédiatement, c'est bien évident. C'est ça que ça fait. Puisque vous n'avez plus ce qui était si agréable, vous êtes coupé de ça. Alors l'imaginaire remplace. L'imaginaire, vous voyez, a cette possibilité de remplacer, de vouloir remplacer les sens. Et ça, c'est le problème des hallucinations. On veut remplacer les sens. Plutôt que d'accepter un sevrage, on ne veut pas l'accepter. La nature a horreur du vide. Or, il y a un sevrage, alors immédiatement l'imaginaire va prendre la place. Parce que la nature a horreur du vide. C'est très très connu ce domaine de l'imaginaire. Et c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça part dans tous les sens. Mais c'est pas commode à tailler. Parce que c'est vraiment hein, la forêt tropicale. Et puis c'est la forêt tropicale, vous coupez, puis ça repousse derrière vous. Hein, avec la même rapidité. Alors c'est encore plus difficile de découvrir. Mais il y a des petits sentiers. Il faut revenir aux sensations. Vous voyez là l'intérêt de la méthode Vitose. On revient aux sensations. C'est l'intérêt. La méthode Vitose, c'est pour lutter contre les débordements imaginatifs. Donc, ce n'est pas directement philosophique, non. C'est pour lutter contre les débordements imaginatifs. Le philosophe ne lutte pas directement contre ça. Et la philosophie ne peut pas. Parce que la philosophie, c'est l'intelligence. C'est le nous. Pas le nous. Très bien. Alors, il peut être agacé devant les idées, mais il n'a pas le petit truc. Comment le moyen de lutter contre l'imaginaire, c'est les sensations. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors, le plus petit que soi, c'est les sensations. Et être attentif aux sensations, c'est justement permettre que les débordements imaginatifs ne se font plus. On les canalise. Puisque l'imaginaire, c'est le mouvement produit par la sensation en acte. Quand la sensation est en acte, l'imaginaire n'a pas de débordement. Tandis que quand la sensation n'est plus en acte, il y a un vide. Alors, elle le prend. Mais vous voyez que, puisqu'il y a cinq sensations, vous aurez cinq formes d'imaginaire. Et ça, on n'a pas assez étudié philosophiquement. Vous aurez cinq formes imaginaires. Et ce serait très intéressant d'essayer de détecter ce que ne font pas les psychanalystes. Hein, de détecter les formes d'imaginaire et les débordements imaginaires. On ne doit pas soigner de la même manière un débordement imaginaire visuel et un débordement imaginaire du côté du goût. Ah, c'est bien évident. Vous avez le désir de la Madeleine de Proust, ça revient tout le temps, à chacun. Il y a tout le temps le désir, ou bien, je vous dis, les oignons d'Égypte, c'est classique. Alors on voit très bien comment il y a cette espèce d'appel imaginaire qui empêche. Et alors à ce moment-là, on dira peut-être, ah, c'est peut-être mieux de vous servir un plat d'oignon, parce qu'alors ça vous aidera, n'est-ce pas? Ça vous aidera à lutter et à revenir à la réalité. Et à ce moment-là, au moins, l'imaginaire ne jouera pas. C'est dans ce sens-là que vous dira, faites attention au sevrage. Il y a un sevrage dans la vie religieuse. Un terrible sevrage.
Oui, c'est évident, comparativement. Quelqu'un qui allait tous les jours au cinéma, quelqu'un qui allait tous les jours à un sevrage effrayant de la vie religieuse. Alors à ce moment-là, on comprend très bien que ça va à la campagne.
Là, il voulait vers la campagne.
L'imaginaire va reprendre. Et alors on dira, promenez-vous, entendez les petits oiseaux chanter, regardez le printemps qui pousse, ça aide. C'est réactuer les sensations. Réactuer les sensations, ça canalise l'imaginaire. Tandis que si vous dites, ah moi je vais faire une promenade, mais je ne vais rien regarder, alors vous ne voyez jamais votre imaginaire. Sans l'imaginaire, ça lui est tout à fait égal d'être dans la campagne, d'être dans une chambre, vous ne croisez pas un peu plus. La campagne, comment on a voulu de bruit. Mais autrement, il peut, ce nous portons en nous. Alors voyez, il y a cinq ramenettes, hein, cinq formations d'imaginaire. C'est très curieux, les images. Alors ça se voit dans les rêves. C'est évident que tout de suite, vous voyez dans les rêves, si votre point dominant, c'est la vision, et si vous êtes sevré du côté de la vision. Parce que ça, c'est les rêves. C'est réparer ce bras. Alors quand ça se fait pendant les rêves, ça va. Mais quand ça se fait pendant la journée, c'est plus gênant. C'est plus gênant. Mais en fond, c'est réparer ce bras, c'est tout simplement. C'est une espèce d'imaginaire qui veut prendre la chose. Donc, comment comprendre cela, puisque le fait d'imaginer ne va pas de pair avec celui du sentir. Je viens de vous le montrer. Il y a un lien, mais il y a une discontinuité. De plus, dans son De Anima, Aristote ne fait aucune allusion à la mémoire. Donc c'est autre chose, ça. On va voir ça après. Qui, d'une certaine manière, semble présupposer et inclure dans l'imagination. Alors, ça, c'est la question. J'ai traité de l'imagination avant la mémoire. Parce que c'est l'imagination qui est source de la mémoire. Et pas l'inverse. Tu vois ? C'est ça, il faut bien comprendre. Ça, on va le voir après. On regardera le point de vue de la mémoire. Bon, alors... Je continue pour l'imagination. On pourrait voir des tas de choses, vous comprenez là. Prendre l'étude de Sartre sur l'imaginaire. Ça vaut la peine, c'est intéressant, c'est important. Donc ayez votre chantier sur l'imaginaire. Je vois donc que l'imaginaire va former des images, des icônes, des images, qui vont être portés dans le mouvement et donc qui vont pouvoir s'associer mutuellement. C'est en ce sens-là que l'imaginaire nourrit l'imaginaire. L'imaginaire est nourri par les sensations, mais comme l'imaginaire est un mouvement constant, l'imaginaire va pouvoir se nourrir lui-même. Il n'y a pas d'arrêt dans l'imaginaire. Ça qui est très très curieux. Donc vous ne pouvez pas corriger l'imaginaire par l'imaginaire. L'imaginaire est incorrigible par lui-même. Vous le corrigez par la sensation, vous le corrigez d'une autre manière, par l'intelligence et la volonté. Mais vous savez que, et ça nous le verrons au point de vue de la volonté, qu'on n'a qu'un pouvoir politique sur l'imaginaire, comme dit saint Thomas. Un pouvoir politique. Et saint Thomas disait ça de son temps, au troisième âge, on sait quelle était la politique de son temps. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, parce que le pouvoir politique aujourd'hui, vous voyez ça, le pouvoir politique aujourd'hui, il est bien faible. À part la police, le pouvoir politique, il est très faible. Alors, notre imaginaire, dans la mesure où il a pris une grande place, vous avez de moins en moins de pouvoir dessus. Et l'imaginaire demande de croître. Pas de limite. Il est dans l'ordre du contenu. Il est dans l'ordre de la quantité, dans l'ordre de la grandeur. Elle veut dire comment lutter la sensation. C'est encore être attentif à nos sensations qui canalise le lieu imaginaire. Parce que nous pouvons aussi, hein, par le sommet, si on était. Si l'intelligence est très développée, c'est-à-dire si on a des aptitudes intellectuelles très fortes, je crois qu'on lutte contre l'imaginaire. Vous voyez, comme disait Sainte Thérèse, le point de vue de l'oraison diminue l'imaginaire. Ça, c'est sûr. Ça diminue aussi l'imaginaire. Mais ça, c'est l'oraison. Quand on va vous dire corrigez votre imaginaire par l'oraison, vous ne savez pas ce que vous me demandez. C'est à ce moment-là où l'imaginaire est plus fort. Ça, donc, corriger, c'est impossible, c'est impossible. Au moins, quand je touche quelque chose, quand je mange, mon imaginaire est beaucoup moins grand. Vous n'avez qu'à réfléchir. Pendant vos repas, l'imaginaire est beaucoup moins grand. Il est pacifié. Ce que vous, surtout si c'est bon ce que vous mangez, et si c'est mauvais aussi. Parce que ça va avoir l'importance. Si c'est bon, faites attention. Si c'est mauvais, vous faites attention. Vous êtes tous et faire attention. Alors, si le piment est fort, c'est suffisant. À ce moment-là, la sensation est violente et c'est suffisant. Immédiatement, il y a un calme de l'imaginaire. Toutes les semaines, une soupe pimentée. Calmer l'imaginaire. Arrêter l'imaginaire. Faire que l'imaginaire soit pacifié à ce moment-là. Parce qu'on est saisi. On est saisi par ça. Et il y a immédiatement. Si on pouvait mesurer l'imaginaire, on allait. Tiens, ça a baissé. Et la sensation a pris le moment. Après quelque chose, vous voyez, c'est au fond, au moment où vous arrêtez les sensations, vous sevrez les sensations, le sevrage des sens fait que l'imaginaire augmente. Ça, c'est évident. Mais vous ne pouvez pas lutter contre l'imaginaire par lui-même. Je vous dis, c'est ça qui est terrible. Et l'imaginaire se nourrit par lui-même. Donc, j'analyse rapidement pour terminer, n'est-ce pas, le point de vue de l'imaginaire, la connaissance imaginaire. Connaissance imaginaire. Cette connaissance a quelque chose de spécial, elle a quelque chose d'unique, elle n'est pas la sensation, elle est une représentation. Si elle est une représentation, il faut donc qu'il y ait une cause efficiente. Surtout que l'imaginaire m'apparaît comme un mouvement. Donc la cause efficiente, le cérébro-verré, est particulièrement intense dans l'imaginaire. Le cérébro-verré. Et c'est donc à l'origine de l'imaginaire, il y a la fantasia. Donc, il y a une dynamisme. Nécessairement. Cette dynamisme se met en exercice par la sensation. Mais la sensation en acte, oui, la sensation en acte, mais comprenons bien, la sensation en acte actue l'imaginaire. Mais quand la sensation s'arrête, l'imaginaire n'a plus de limite. Oui. Donc, je mets une dynamisme. Quel est le point de vue, terminer cette colonne, hein, de ce mouvement, quelle est la cause formelle? La cause formelle, je dirais, qui, le contenu, pas ce qui spécifie, mais le contenu de l'image, il est sensible comme l'image. Je regarde la cause matérielle, c'est facile, hein, c'est le sujet humain qui imagine. Quelle est la finalité? Cause finale. Quelle est la cause finale? C'est le mouvement. L'imagination se meut par plaisir de se mouvoir. Pas de cause finale de l'imaginaire, en dehors de l'imaginaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais. Quand vous êtes pris par l'imaginaire, la suppression de la causalité finale. Dès qu'on est pris, on supprime la cause finale. La cause finale, oui, alors je pourrais dire d'une certaine manière que l'imaginaire est anti-finalité. Parce qu'elle est à elle-même sa propre finalité. Or, c'est une finalité qui est dans le devenir. C'est le cantarelle. C'est ça qui définit mieux. C'est tout cool, tout le temps, un mouvement continu. Alors, il n'y a pas de finalité en dehors. Et c'est à l'intérieur même. Donc, on comprend très bien que ce type de connaissance est un type de connaissance second. C'est pas intéressant du tout pour connaître ce que c'est que la connaissance, puisqu'au contraire, ça me met devant quelque chose qui est second. Ce qui m'intéresse au point de vue de la connaissance, c'est la sensation. Mais si vous mettez à vouloir étudier ce que c'est que la connaissance en réfléchissant sur l'imaginaire, vous n'arrivez pas. Je crois que c'est aussi très important à voir que, de fait, ma réflexion sur ma connaissance imaginaire ne me fera jamais comprendre parfaitement ce que c'est que la connaissance. Je suis devant un mouvement, alors que la connaissance est repos, dans le sens très fort. Parce qu'elle est avant tout, au point de vue, la cause formelle, la spécification. Elle est repos, la connaissance. Alors que l'imagination, c'est le mouvement. Elle est agitation. Elle est dans l'agitation.
Est-ce qu'on va pas pouvoir chercher une causalité finale dans la connaissance intellectuelle?
C'est la connaissance intellectuelle qui prend son bien en dehors. en dehors de l'être, droit. Mais vous n'allez pas me dire que la fin de la causalité finale, c'est d'être mangé par le... Vous voyez, c'est comme vous disiez, quelle est la fin du petit lapin? C'est d'être mangé par le bois. Ah, oui. Si je regarde le petit lapin en lui-même, c'est pas sa finalité d'être mangé par le bois. Pour le bois, sa finalité, c'est de manger le petit lapin. Vous voyez? Alors ici, c'est le petit lapin. Vous voyez bien, l'imaginaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? Le qui est-il l'imaginaire? Il n'y a pas de finalité dans l'imaginaire. Si je vois l'imaginaire dans l'ensemble de ma connaissance humaine, je dirais que l'imaginaire va être assumé par l'intelligence. Vous voyez? Mais l'imaginaire en lui-même, très curieux, ça. Et je crois que ça fait comprendre beaucoup de choses, ça. Ça fait saisir ce que c'est que ce domaine particulier de l'imaginaire. C'est très très important de saisir dans notre monde d'aujourd'hui.